La revue de presse internationale, Camille Manière, bonjour.
Bonjour.
Dans le sud du Brésil, les recherches de survivants ont pu reprendre hier soir dans la région dévastée par la rupture d'un barrage minier.
Oui, là où des tonnes de boue rouge ont submergé en quelques minutes vendredi le village de Brumadinho. Les hélicoptères de la sécurité civile brésilienne tentent à nouveau de retrouver les près de 300 disparus de cette catastrophe qui a fait officiellement 58 morts pour le moment. Car cette nuit, la chaîne de télé Globo confirmait que le risque de rupture d'une deuxième retenue de déchets miniers en amont dans la vallée était écartée. Une épée de Damoclès en moins donc pour les habitants évacués, terrifiés et pour les secouristes aussi qui ont reçu, nous indique Au Tempo, le soutien de quelques 130 militaires israéliens envoyés par Tel Aviv. C'est dans les moments de crise que l'on compte ses amis et ce soutien humanitaire déclenché par Benjamin Netanyahou confirme son alliance avec le nouveau président brésilien Jair Bolsonaro. Mais le cataclysme de vendredi n'a pas fini de questionner les Brésiliens sur les responsabilités de la société minière Vale S.A. qui exploite les mines de fer de cette région et gère les barrages dont la sécurité est remise en cause. La mine a encore tué et Vale va devoir payer pour cela, nous confirme la Gazeta do Povo. La justice brésilienne a ordonné dès ce week-end que 10 milliards de dollars soient saisis sur les comptes de la société pour provisionner les réparations des dégâts causés à l'environnement et indemniser les familles de victimes. Mais cela ne résoudra pas la question qui est dans tous les esprits au Brésil et que formule ce reporter de Globo.
Que lições, afinal, não foram aprendidas depois da tragédia de Mariana? Como é possível que esse desastre se repita tão pouco tempo depois no mesmo território? E como a gente sabe, Minas
Gerais carrega... Como é possível que não tenha aprendido da precedente tragédia à la mine Mariana, 120 morts, il y a 4 ans? Como um tel desastre a-t-il pu se repetir em si peu de temps? E dans la même région, le journaliste de Globo évoque les dernières technologies disponibles qui permettent de rendre les mines et leurs déchets plus sûr, plus propre. En 4 ans, les investissements nécessaires n'ont apparemment pas été réalisés alors que les mines de fer brésiliennes rapportent des milliards en bénéfices chaque année à Vale. Et de formuler la question en ces termes, que vaut la responsabilité sociale d'une grande entreprise face à ses intérêts financiers?
Et puis au Venezuela, Camille, le bras de fer que se livrent les deux présidents se décline aussi sur le terrain économique.
Oui, entre le chef de l'État contesté, Nicolas Maduro, et son opposant autoproclamé président par intérim Juan Guaido, l'une des clés se trouve en effet dans un coffre-fort à la City de Londres. On lira ça dans le Financial Times. Juan Guaido, fort donc de la reconnaissance des États-Unis et de leurs alliés, a écrit il y a quelques jours à Theresa May et à la Banque d'Angleterre pour leur demander d'empêcher Nicolas Maduro de retirer des comptes de l'État un peu plus d'un milliard d'euros en lingots d'or. El País nous confirme cette demande qui a été faite donc par Guaido concernant les 31 tonnes d'or détenues par le gouvernement vénézuélien à la Bank of England. Et selon El Universal, la banque londonienne a donné raison dans cette affaire à Guaido contre Maduro, lequel n'a donc plus les droits sur les comptes de son pays. À bien lire le Financial Times, on comprend tout de même que cela faisait des mois déjà que le régime chaviste de Caracas essayait de puiser dans ses réserves d'or pour atténuer les effets de la crise économique, mais il en était empêché par les sanctions internationales qui lui étaient imposées. Les choses se compliquent encore plus donc pour Nicolas Maduro car, nous dit El Nacional, les États-Unis aussi également reconnaissent désormais Juan Guaido comme président et donc comme détenteur légal des droits sur les biens détenus par l'État vénézuélien dans les banques américaines. C'est en tout cas ce que déclarait hier soir sur CNN le sénateur républicain Marco Rubio. Il y a aussi répondu aux accusations de nombreux élus démocrates américains qui accusent la Maison-Blanche de piloter et de financer à distance un coup d'État contre Maduro. Nous ne faisons que soutenir les institutions démocratiques du Venezuela, a expliqué Marco Rubio, qui dit aussi que les États-Unis ne sont pas à la baguette, mais c'est une multitude de pays qui soutient Guaido au Venezuela. La liste de ce pays continue d'ailleurs à s'allonger. L'Australie a officiellement reconnu ce dimanche Juan Guaido comme président du Venezuela.
Et puis on termine enfin par le Caire, où débute la visite officielle d'Emmanuel Macron en Égypte, laquelle coïncide avec celle du président soudanais Omar El-Béchir.
Oui, le Soudanais en visite éclair hier au Caire nous apprend The Middle East Eye. Il était là pour consolider le soutien de son voisin égyptien, car il en a bien besoin, Omar el-Béchir, de soutien en ce moment. Le journal israélien Haaretz nous rappelle qu'Omar el-Béchir est sous le coup de deux procédures devant la Cour pénale internationale pour des faits de génocide et de crimes contre l'humanité. C'était pendant la guerre du Darfour au début des années 2000. Au pouvoir depuis 29 ans, Omar el-Béchir fait face depuis un mois au Soudan à la contestation la plus forte, la plus populaire aussi, à laquelle il n'ait jamais été confronté. Malgré la répression policière, il y a encore des centaines de manifestants ont mené un sit-in pacifique dans plusieurs villes du pays. Ces manifestations, a dit hier el-Béchir au Caire, et c'est repris par la Sudan Tribune, ces manifestations sont largement surestimées, gonflées selon lui par les médias internationaux, manipulées par des puissances étrangères qui veulent mener un printemps arabe au Soudan. Alors, pour s'assurer du soutien de son grand voisin égyptien, le président conspué a dû faire une concession. C'est le site d'info Africazine qui nous l'apprend dans l'accord bilatéral signé hier. Un point ressort en particulier, la coopération affichée par le Soudan à l'Égypte sur le dossier qui empoisonne depuis des mois déjà la diplomatie régionale, le projet de barrage géant qui a été lancé par les Éthiopiens sur le cours du fleuve, le Nil Bleu. Ce barrage de la Renaissance, il priverait l'Égypte d'un contrôle précieux sur les eaux du grand fleuve. Le Soudan jusque-là penchait plutôt dans le camp éthiopien dans ce conflit régional, mais hier il a dû donner donc des signes clairs de ralliement à la cause égyptienne pour faire plier l'Éthiopie. C'était sans doute le prix à payer pour pouvoir compter sur l'Égypte au cas où les choses tourneraient vraiment mal pour Omar el-Béchir face à la colère de sa propre population.
Merci beaucoup Camille Magnard. On retrouve votre revue de presse internationale sur le site de France Culture, franceculture.fr.